Devoir de Bluen Coulouanier. Alors, Bluen, il y a quelque chose que je trouve un peu curieux dans dans ce devoir. Bon, tu maîtrises les événements, hein, donc tu connais la crise de Cuba, mais je trouve que tu ne respectes pas la chronologie, puisque je retrouve en deuxième partie des éléments que tu aurais dû dire en premier. Et donc, je pense que ce n'est pas assez structuré. En fait, il aurait fallu avoir ce plan-là, hein, donc... C'est une crise de guerre froide parce que les deux grands sont dans un affrontement idéologique depuis 1947 et qu'ils essayent évidemment de pousser leurs pions dès qu'ils le peuvent. Hein. Donc, et ici, en l'occurrence, des missiles à Cuba. Donc tu expliques. Voilà. Deuxièmement, c'est une crise de guerre froide car elle ne dégénère pas en affrontement direct du fait des négociations qui ont lieu. Donc deuxième partie. Et à mon avis, il manque une troisième partie. C'est pas du tout vu dans ton analyse. C'est aussi une crise de guerre froide car ce sont les deux grands qui donnent le rythme et les pions, ce sont les alliés qui sont assez malmenés dans cette histoire. Et je parle essentiellement de Cuba, hein, de Castro. Et donc ça veut dire que on va rentrer. Et c'est une crise de guerre froide qui annonce la détente, qui est cette période de relations internationales où il n'y a pas vraiment de crise majeure, à part quand même la guerre du Vietnam, pas d'affrontement direct, et où les deux grands s'entendent pour gérer ensemble, hein, je peux le dire comme ça, une cogestion des relations internationales. Voilà. Et donc je trouve que, tu vois, par exemple, moi j'aurais mis dans la première partie, ben, c'est un... Voilà, un bras de fer, et dans le bras de fer, bah, il y a ces histoires de missiles, et puis tu vois, tu évoques ça donc dans la deuxième partie, et puis c'est un bras de fer parce que le président Kennedy réagit très fermement, hein, et donc par son discours du 22, et donc je le retrouve essentiellement dans ta deuxième partie, et dans ta troisième. Toi, je ne suis pas tout à fait d'accord, et tu utilises par exemple la baie des cochons sans faire référence au document. Donc bon. Alors, regardons de plus près ensemble comment tu aurais pu faire. Déjà, en introduction, ce qui manque, c'est peut-être quand même le contexte idéologique. Tu dis que c'est en plein milieu de la guerre froide. Oui, si tu prends le contexte, enfin la périodisation 47-91, on est à la fin de cette première phase de la guerre froide, depuis 47, qui a vu les blocs se constituer, hein, les déclarations de guerre froide se faire, les blocs se constituer, et puis les premières crises se dérouler pour tester un petit peu, pour voir jusqu'où on pouvait aller. Hein. Et donc, s'il y a bien une crise qui montre jusqu'où on peut aller, c'est 62, la crise de Cuba. Donc, on est à un moment de tension important parce qu'un an auparavant, il y a eu donc la construction du mur de Berlin. Et donc, quand même, hein, donc à un moment, je crois que dans ton devoir, tu dis, à la fin, c'est la première crise de guerre froide située aussi proche d'un des deux pays. Je suis d'accord, hein, donc la construction du mur de Berlin. Je ne sais pas si tu sais que Berlin, ça se trouve à 70 km de la frontière polonaise, qui est donc dans le bloc de l'Est. Hein. La Corée du Nord a une frontière commune quand même avec la Chine et puis l'URSS. Hein. Donc voilà, donc, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc il aurait fallu préciser, hein, donc ici, et puis donc après, bon, sur Khrouchtchev, bon, c'est pas trop grave, hein, en fait, il apparaît essentiellement à partir de 56, hein, 55-56. Bon, c'est pas grave que tu aies mis 9 ans, c'est le successeur de Staline. Alors, toi, tu nous expliques la situation, alors je pense qu'il fallait commencer, c'est une intervention des deux blocs, pourquoi ? Qui commence ? Ben, l'URSS, qui installe quoi ? Des missiles, ou à Cuba ? Et là, tu nous expliques en quoi ça constitue une provocation, plutôt que de dire, lorsque Fidel Castro renversa le gouvernement de Cuba, en 59 d'ailleurs, hein, Cuba était sous influence. Voilà. Donc ici, cet événement pose problème, hein, donc ici, qu'est-ce qui pose problème ? Ben, c'est les missiles, pourquoi ? Parce que Cuba était sous la domination américaine, mais on sent bien depuis l'arrivée de Fidel Castro que ce territoire échappe à l'influence américaine. Hein. Et donc, là, c'est quand même assez intéressant, hein, donc... De voir, alors plutôt que de parler tout de suite de la baie des cochons, je vais en parler, hein. Donc moi je parle d'abord de ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc lors d'un vol d'avion espion américain au-dessus de Cuba, les Américains découvrent, donc c'est le 14 octobre, hein, des rampes de lancement de missiles, donc qui sont installées par l'URSS, d'accord, des bateaux, je suis d'accord. Bon, donc aussitôt, il y a une réponse américaine, document 1, hein. Document 1, un discours télévisé, donc tu peux dire que la télévision, c'est le média principal, etc. Il s'adresse à qui ? Ah, son administration, aux citoyens américains qui sont rivés à la télévision, et puis au monde entier, et il donne des gages. Il donne des gages de sa fermeté, et il annonce que, en fait, ça veut dire qu'il a intérêt à bien s'en sortir, parce que un an auparavant, il y a eu la baie des cochons et l'échec. C'est ce que tu as expliqué. C'est comme ça que je l'aurais mis. D'autant plus que lorsque Khrouchtchev parle dans le document 2, hein, de violation des normes élémentaires du droit international par les États-Unis, hein, ligne 11, agression et violation, sans doute fait-il allusion aussi à la baie des cochons. Tu vois, donc j'utilise le document de cette manière-là. Hein. Il faut que, plutôt que de dire baie des cochons, voilà, donc d'abord les documents pour arriver à la baie des cochons. Ça, c'est la méthode du commentaire de document. Alors, qu'est-ce qu'il annonce, puisqu'il doit donner des gages? Eh bien, très ferme. Il annonce, eh bien, que il prend ça comme une violation, hein, donc de la paix internationale, que c'est un acte d'agression pour lui, hein, donc, et que il va donc éventuellement, pour faire reculer donc l'URSS, il n'hésitera pas à recourir, mais vraiment que s'il le faut, hein, donc à la menace nucléaire. Mais à regret, hein, puisqu'il dit que les fruits de la victoire n'auraient dans notre bouche qu'un goût de cendre. Hein, donc voilà. Donc il lui laisse une porte de sortie, hein, dans les tracts, parce que là il y a le discours télévisé, et puis derrière il y a toute la diplomatie qui se met en œuvre. Et puis il annonce la mise en place d'un blocus. Alors c'est pour ça que tu dis qu'ils ont envoyé des troupes dans la deuxième partie. Tu vois, moi j'aurais mis ça là. Et donc c'est pas des troupes, hein, c'est un blocus maritime, hein, donc ici. Et donc voilà, hein, on en est là. Alors. La tension est extrême, les navires soviétiques se dirigent vers ce blocus, et donc on a bien une diplomatie qui se joue au bord du gouffre. Et donc cette diplomatie, elle se joue par message interposé que les ambassadeurs apportent. Hein, donc, voilà. Et on voit ces messages. Donc, hop, deuxième partie. C'est bien une crise de guerre froide, je reprends ma problématique, parce qu'on arrive ici. À un accord, enfin, à une négociation qui permet d'éviter la Troisième Guerre mondiale, et nucléaire sans doute, hein, qui permet d'éviter la guerre directe. Donc ce n'est pas une guerre chaude. Bon. Alors comment? Bien, allusion dans le document 2 à de nombreux messages, hein, donc ligne 2, hein, ligne 4, ligne 6, donc ligne 7, voilà, donc on voit bien qui ça discute. Et ils discutent de quoi? Eh bien, et qui discute? Les deux, hein, pas Castro. Et donc, Khrouchtchev renonce. Il leur donne à ses navires de faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu de Kennedy l'assurance que les États-Unis n'envahiront pas Cuba. Donc, les États-Unis admettent d'avoir Cuba à leur portée, hein, donc communiste, bien évidemment. Hein. Bon. Et puis, il obtient donc cette assurance, et donc il obtient aussi le retrait de vieux missiles en Turquie dans le cadre de l'OTAN. Bon, donc en fait, la crise est résolue. Qui semble avoir résisté le plus, hein, donc à la pression? Bah, c'est quand même Kennedy. Donc il en sort plutôt grandi, donc c'est ce qu'il voulait. Hein. Il efface le souvenir de la baie des cochons, il montre que. Eh bien, il a carrure, hein, pour être un grand dirigeant de la grande puissance américaine. Khrouchtchev a perdu son coup de poker. Hein, et puis, eh bien, de qui ne parle-t-on pas? De Castro, qu'il va falloir calmer. Et donc, c'est une troisième partie. C'est une crise de guerre froide qui montre bien que chaque camp doit bien maîtriser ses alliés, quitte à les gronder, hein, à les reprendre. Et regarde un peu le ton de la lettre de à Fidel Castro. Qu'est-ce qu'il a fait, Fidel Castro? Il a bien compris, hein, que les négociations n'étaient pas à son avantage. Et le 27 octobre, alors que les négociations aboutissaient, il a fait un tir donc de la DCA donc, pour abattre un avion espion, hein, au-dessus de Cuba. Donc, un incident de ce genre, hein, donc, c'est vraiment ce qui va faire dérailler la machine, ce qui peut faire dérailler la machine, et qui pourrait inciter les Américains, eh bien, à se dire, oh ben voilà, pendant qu'on négocie, en fait, les Soviétiques poussent les Cubains à tirer sur nos avions. Bon, heureusement, eux, ils ont su garder leur calme, ce qui n'est pas le cas de Fidel Castro, qui se fait gronder. Regarde, ligne 9, je vous recommande de ne pas vous laisser emporter par vos émotions et de faire preuve de force de caractère. Ligne 16. J'aimerais vous conseiller de façon amicale de faire preuve de patience, de fermeté, encore plus de fermeté, etc., etc. Donc, en fait, c'est une lettre où même s'il lui donne des gages de communisme et le rassure sur le fait que même s'il discute avec Kennedy, il reste communiste. Il l'appelle cher camarade. Il lui rappelle qu'ils sont d'accord pour construire une société socialiste. Il lui rappelle qu'il considère le département donc, de la défense, hein, donc le Pentagone, rempli de militaristes déchaînés. Mais là, il donne des gages. Hein. C'est la rhétorique classique hein, donc, du discours soviétique. Mais quand même, le fond du discours, c'est que de Lenin, c'est qu'il lui dit bah, calme-toi, s'il te plaît. Hein. Et donc, bah, Castro reste. C'est le dindon de la farce. Voilà. Hein, voilà en quoi aussi c'était une crise de guerre froide. Et je pense que cette partie-là, tu vois, elle t'a un peu échappé. Hein. T'es parti sur. La médiatisation de cette crise qui a permis aux deux puissances d'étendre leur influence. Non. La médiatisation de la crise, elle a été théâtralisée hein, par les deux bords, hein, par Kennedy, la théâtralisation de l'intervention du 22 octobre 62 dans le bureau ovale, hein, donc moi j'aurais dit ça aussi, hein, et théâtralisation aussi par Khrouchtchev qui agite, donc qui montre, ah bah, moi je suis capable hein, donc, de menacer hein, donc, aussi les États-Unis, théâtralisation, mais finalement coup d'épée dans l'eau, et qui va ouvrir une nouvelle phase hein, des relations internationales où on va essayer de discuter avant de s'énerver. Hein. Et donc, c'est l'apprentissage de cette dissuasion et donc de cette co-gestion des relations internationales à deux et pas à plusieurs. Hein. Donc, c'est bipolaire, hein. On n'est pas du tout dans un monde multilatéral. Donc, toi, ça t'a échappé un petit peu. Et alors, ce qui me gêne le plus, peut-être, c'est. Tu vois, c'est cette espèce de flottement de la chronologie de la crise. Hein. Donc voilà. Donc on est entre les deux là. Comment te dire ? Moi, je pense qu'on n'est pas à plus de 10, hein. On est à 9-10. Et donc tu n'as pas saisi la dangerosité de ce qui s'est passé le 27 octobre. Hein. Et donc, bon. Je pense que ça va être 9. Hein, il faut approfondir davantage le Bleuen, hein, donc peut-être mieux sentir les documents, puis être plus rigoureuse dans le suivi de la chronologie, et puis comprendre qu'il faut non pas donner d'abord les événements, mais partir des documents pour arriver aux événements qui sont qui figurent dans cet exercice. Bon, de toute façon, t'es venu, hein, donc tu as composé, c'est déjà bien. Hein, donc, et maintenant, en route pour le deuxième galop.